Chers amis, aujourd'hui, nous suivons Élie, un héros imparfait, un prophète humain, trop humain. Mais d'abord, posons les bases, c'est quoi un prophète? Un prophète, c'est un envoyé de Dieu, envoyé auprès du peuple, bien souvent pour transmettre un message, afin de le faire changer, pour qu'il revienne vers Dieu. Ce n'est pas mission aisée d'annoncer des malheurs à venir, tout en demandant au peuple de changer. Alors, certains ont tenté de refuser le job, comme Jonas par exemple. Mais ils sont tous très proches de Dieu, alors même si certains négocient, comme Abraham quand Dieu veut détruire Sodome, tous finissent par remplir leur mission. On les distingue des faux prophètes, qui servent bien souvent une divinité païenne, comme Baal, ou qui se disent envoyés de Dieu alors que ce n'est pas le cas. Parmi les grands prophètes, il y a Abraham et Moïse. Leur image et leur proximité avec Dieu les rend presque parfaits. Mais parmi les grands prophètes, on trouve aussi Élie. Élie apparaît au premier livre des rois pour avertir le roi d'Israël, Achab, d'une grande sécheresse due à l'infidélité du peuple. Cette dernière dure 3 ans. Vers la fin de ce laps de temps, Dieu renvoie Élie vers Achab. Il annonce alors au roi son intention de défier les prophètes de Baal et d'Achéra sur le mont Carmel. Au cours de cette confrontation, les divinités païennes sont impuissantes alors que le feu de Yahvé dévore l'offrande sur l'autel rebâti par Élie. Aveuglé par ce feu et son amour pour Dieu, Élie massacre ensuite les faux prophètes. Élie se croit juste dans cette action. Mais dans ce moment de folie pure, Élie n'est plus en lien avec son Dieu. Au contraire, il prend sa place. Et par cet acte, il provoque la fureur de la reine Jézabel qui ordonne son exécution. Alors, il fuit au désert. Or, le désert est un endroit dangereux. Il y fait chaud le jour, froid la nuit, l'eau et la nourriture y sont rares. Et quand le vent souffle, le désert change de forme et on risque de s'y perdre. Alors, il faut être prêt et avoir une bonne raison pour aller au désert. Malgré sa faute, Dieu ne l'abandonne pas. Même si Élie demande de mourir à un moment, Dieu est là et il donne à manger et à boire à Élie. Cela peut aussi nous rappeler la marche du peuple après sa libération d'Égypte. Dieu guide aussi ses pas durant 40 jours et 40 nuits pour le mener au mont Horeb, aussi appelé Sinaï. Et c'est là, dans ce lieu hautement symbolique, que Dieu va recréer le lien avec Élie. Cette grotte est un lieu qui le place en retrait, qui coupe Élie de l'extérieur. Souvenez-vous, Dieu invite aussi Moïse dans une grotte quand il se révèle à lui à travers le buisson ardent. Cette grotte, c'est un lieu de réflexion, une matrice, d'où Élie pourra ressortir, un peu comme neuf. Cette grotte, située au Sinaï, la montagne de Dieu par excellence, du fait de l'histoire entre Dieu et Moïse en cet endroit d'où viennent aussi les tables de la loi, est donc aussi le lieu de la nouvelle alliance. Ici, Dieu va enseigner et se révéler à Élie, changer son regard sur lui-même, le monde, la vie, et lui redonner confiance pour qu'il puisse reprendre son chemin. Et pour cela, Dieu va commencer par accueillir son prophète. Il l'accueille en ce lieu en lui adressant une parole personnelle. C'est quoi pour toi d'être ici, Élie? Cette question est étrange, mais selon moi, le but de Dieu est ici de renouer avec Élie. D'autres traductions proposent « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Mais ce « pourquoi » renvoie dans ma compréhension du texte à une justification qu'Élie donne, mais qui n'est pas présente en hébreu dans la question. Je crois que Dieu ne demande pas à Élie de se justifier. N'est-ce pas lui qui l'a mené ici? Il veut plutôt l'amener sur le terrain de leur relation. Alors même si Élie répond un peu à côté, en revenant sur son vécu et en se justifiant, je crois qu'il dit aussi par là que cet acte meurtrier est lié à son image de Dieu, qu'il appelle Dieu des armées. Et puis, sûrement qu'Élie a aussi besoin d'exprimer son vécu. Il s'est perdu entre la joie de la présence de Dieu, révélée par le feu au mont Carmel, puis cette folie qui le pousse à tuer. Est-ce de la colère, de la haine, de l'incompréhension face à des prêtres qui ont tourné le dos à Dieu? Élie, aveuglé, prend le rôle de justicier, mais dans cet élan jaloux et meurtrier, ne prend-il pas la place de son Dieu? Rapidement, il est rattrapé par les événements. Il a peur pour sa vie, puis tombe en désespoir. Dieu lui redonne des forces, et le voilà arrivé ici. Ce doit être un soulagement. Mais en même temps, tout en lui doit être tellement confus. Je crois qu'il ne se rend même pas compte des erreurs qu'il a pu commettre dans sa folie. Dieu pourrait commencer par lui faire des reproches, lui rappeler la loi, tu ne tueras point. Mais non. Avant d'être dans le jugement, Dieu est dans l'accueil. Et avec sa question, il entre en relation et crée la rencontre afin de permettre à Élie de déposer son vécu et ses émotions. Si nous sommes honnêtes, nous ne pouvons pas manquer de remarquer qu'Élie se justifie et qu'il réécrit l'histoire à sa façon. D'un seul coup, de vainqueur et vengeur, il devient une pauvre victime, esseulée et apeurée. Pourtant, Dieu ne le reprend pas. Dieu sait qu'Élie est un prophète tout humain. Il a agi selon sa vision de Dieu, croyant être juste. Alors, plutôt que de le reprendre, Dieu l'invite à approfondir cette rencontre dans un face-à-face. D'ailleurs, bien souvent, Dieu agit dans nos vies de la manière dont on s'y attend le moins. Il invite donc Élie à sortir. Craintivement, sûrement, Élie se tient à l'entrée de son refuge, alors que Dieu l'a appelé à sortir sur la montagne. Mais cela vaut sans doute mieux, parce que le passage de Dieu est accompagné de catastrophes pas si naturelles que ça. Ainsi, alors que Dieu passe, viennent des démonstrations habituelles du Dieu fort et tout-puissant, du Dieu des armées qu'Élie a évoqué dans sa réponse. Un Dieu au souffle puissant, un Dieu capable de déplacer des montagnes provoquant un tremblement de terre et un feu brûlant s'imposant devant les idoles et les hommes. Pour moi, il y a là un paradoxe. On nous dit que Dieu passe, mais face à ces trois événements, qui pourtant n'arrivent pas tous les jours, et encore moins à la suite, Dieu n'est pas. Alors, je me questionne. Dieu était-il vraiment absent de ces catastrophes naturelles? Ou bien est-ce qu'Élie n'a pas osé affronter et reconnaître Dieu à ce moment-là? D'une certaine manière, il n'a pas pu s'approcher de Dieu dans cette toute-puissance. Ensuite, il y a un petit bruit qui n'est pas si facile à traduire. Il s'agit du petit souffle résiduel, très léger, qui fait suite à la tempête. Une voix faite de silence. Une voix telle que nous pouvons en entendre dans le mystère de la foi et de la prière. Et c'est dans cet apaisement, dans ce calme retrouvé, que le prophète reconnaît la présence de Dieu et qu'il sort à sa rencontre. Ainsi, Élie, qui avait prophétisé le malheur et la souffrance comme prix de l'infidélité du peuple, lui qui avait imposé une sécheresse de 3 ans au pays et qui avait fini par manifester avec éclat la supériorité de son seigneur sur celui des Chaldéens, lui qui était même allé jusqu'à faire saisir les prophètes de Baal avant de les égorger lui-même, voilà que Dieu le confronte à l'image de Dieu qu'il véhicule. Il se retrouve aux prises avec la violence divine dont il s'est fait le héros. Et force lui est de constater, de reconnaître que Dieu n'était pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu. Tout à coup, il ressent en lui-même à quel point son annonce du Dieu tout-puissant et vengeur ne permet pas la rencontre ni le changement. Ce doit être une véritable conversion qu'Élie a vécue à travers cette rencontre et à laquelle Dieu nous invite à chaque instant. Oser déposer nos images de lui pour venir véritablement à sa rencontre. Lui est capable d'enseigner sans juger afin de changer notre regard. Je sens dans cette rencontre à la fois quelque chose de bouleversant, mais aussi tellement d'amour de Dieu pour Élie et pour nous, son peuple. Dieu revient alors à la question du début. C'est quoi pour toi d'être ici, Élie? Qu'est-ce qui a changé dans ton regard par cette expérience? Sauras-tu reprendre le chemin et rester désormais à mon écoute? Élie, malheureusement, redonnera la même réponse qu'au début. On peut être déçu, mais ensuite, il découvrira que 7000 justes sont restés là, avec lui, fidèles. Je crois que cette rencontre l'a fait cheminer, malgré tout. Il reprend confiance, comprend que Dieu ne souhaite pas et n'est jamais dans les actes de violence pure comme celle qu'il a imposée au prophète de Baal. C'était là sa folie humaine et non celle de Dieu. Nous aussi devons parfois revoir nos images de Dieu. Nous aimerions tellement le voir agir de manière forte afin qu'il soit reconnu partout. Que cessent les guerres, que le monde soit plus juste et rempli de partage. Mais Dieu ne se révèle pas dans la violence humaine. Non, Dieu a choisi d'agir tout autrement. Il est venu dans le calme et le silence d'une nuit en Jésus-Christ. Il s'est fait homme. Sa vie fut dure et pleine de violence de la part des hommes. Mais il a touché les cœurs et transmis son amour pour nous de siècle en siècle. Et aujourd'hui encore, il est là, par l'Esprit Saint, dans nos souffles ténus et nos bruits de silence. Amen.